Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Plus de 8 millions de dollars de la part de la Corée. C'est la valeur du projet de subvention et réponse holistique aux violences basées sur le genre dans les provinces de la RDC affectées par les conflits de divers types. Un mémorandum d'entente a été signé mercredi entre l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère congolais du genre à ce sujet. L'état de siège prorogé pour la 10e fois par la plénière de l'Assemblée nationale hier. Dans leurs interventions, les députés ont encouragé le gouvernement à renforcer la logistique de l'armée, à reformer les services de sécurité et à doubler la capacité opérationnelle. Et puis, l'invité de ce midi, Dr Franck Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, il parle de ses inquiétudes par rapport à la résurgence d'Ebola à Beniville en cette période de grève des infirmiers. Madame, Messieurs, bonjour. L'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, appuie le gouvernement congolais pour lutter contre les violences basées sur le genre dans les provinces du Kasaï central, Sud Kivu et la ville de Kinshasa. Ceci est contenu dans un mémorandum d'entente signé mercredi entre cette agence et le ministère congolais du genre, famille et enfants. D'après l'ambassadeur de la Corée du Sud, il s'agit d'un premier projet de son pays dans ce domaine avec une idée de l'étendre dans d'autres provinces. Billy Van Lutumba nous en dit plus.
Cet appui d'une valeur de 8,6 millions de dollars rentre dans le cadre du projet de subvention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les provinces affectées par les conflits de divers types. Un projet de 5 ans qui va jusqu'en 2026. Le projet cible environ 150 000 personnes de tout âge et classe sociale survivant des violences basées sur le genre. Kim Ki-jo, ambassadeur de la Corée du Sud.
We are initiating the first project.
Nous commençons déjà ce tout premier projet dans ce domaine-là. Nous allons voir comment les choses vont se dérouler et si c'est possible de les étendre dans d'autres provinces. Le gouvernement coréen accorde beaucoup d'importance sur la question de règlement de prévention de conflits liés aux violences basées sur le genre.
Signalons que c'est les directeurs de l'agence COICA et la ministre du genre Gisèle Ndaya qui ont signé ce mémorandum d'entente. Le vœu de la ministre est de voir cet appui ainsi que le partenariat avec l'UNFIA et le PNUD parviennent à bout des diverses formes de discrimination et violences basées sur le genre.
Je vous le disais en titre, à l'Assemblée nationale, la plénière d'hier a voté à la quasi-unanimité la 10e prorogation de l'état de siège après examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. 275 députés sur les 284 présents à la plénière ont voté oui et 8 autres ont voté non et une abstention. À l'absence de la ministre d'État en charge de la justice, c'est le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, qui a présenté l'économie de ce projet de loi devant la représentation nationale. Reportage de Michel Kifindangoy.
Pour l'essentiel, le ministre d'État François Roubota a déclaré que les services de sécurité de la RDC sont, au cours de ces dernières semaines, engagés sur plusieurs fronts en vue de réduire les capacités opérationnelles des forces ennemies à la base des conflits dans l'Ituri et le Nord Kivu. En 5 mois d'état de siège, plusieurs cas de reddition des éléments des groupes armés, la libération d'axes routiers l'ont enfermé, le basculement des zones de conflit vers le nord-est du pays, ce qui justifie la baisse des activités de ces traîtres du pays dans le Nord Kivu par rapport à l'Ituri où l'ennemi a basculé. Mais le contexte particulier d'une guerre asymétrique combinée à la géographie des territoires sous état de siège exige un peu plus de prudence afin de ne pas exposer des populations à des actes de représailles auxquels se livre malheureusement l'ennemi attaqué de toutes parts, d'où la nécessité d'une prorogation de l'état de siège, a soutenu François Roubota. Dans leur intervention, les députés ont encouragé le gouvernement à renforcer la logistique de l'armée, à réformer les services de sécurité et à doubler la capacité opérationnelle des FARDC.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, les activités économiques, socio-économiques sont restées paralysées cet avant-midi dans la ville de Butembo. Cela fait suite à l'appel des groupes de pression à une journée ville morte en mémoire aux victimes des massacres de Beni. Dans les périphéries de la ville, quelques barricades ont été placées et des pneus brûlés sur la voie publique. La police est intervenue pour dégager le passage. Le récit de Grace Amzati.
C'est depuis tôt le matin que des jeunes manifestants ont brûlé des pneus et placé des barricades, notamment dans la cellule Mutianga, en commune de Bulengira, en Diapanda et à Kaliva Moussoussa, dans la périphérie sud de la ville. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la route et rétablir l'ordre public en tirant en l'air pour disperser les manifestants. Au centre commercial, tous les commerces sont restés fermés avant midi. Des magasins, officines pharmaceutiques, des stations-service et même des banques n'ont pas ouvert leurs portes. La circulation a été également timide dans le centre commercial du l'avant-midi. Des policiers ont été déployés dans tous les endroits stratégiques de la ville. Le commandant intérimaire de la PNC dans la ville, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, affirme que la situation est sous contrôle. Il signale également l'interpellation de quelques manifestants. Butembo, Grâce, Amzati, Radio Kapi.
Sud Kivu, deuxième journée hier des attaques de plusieurs villages dans les moyens plateaux de Bibokoboko au nord-ouest de la ville de Baraka. Le chef local lui-même, en fuite, affirme que plusieurs centaines d'habitants ont déserté avec lui les 12 villages pour se réfugier dans des milieux plus sûrs, dit-il, fuyant ainsi l'invasion des miliciens Mai Mai, fiston Ngoma.
Les attaques se sont poursuivies ce jeudi dans les villages de Lulimba et Kavumu. Le bilan fourni par le chef local de Bibokoboko fait état de 4 civils tués par balle mercredi et 4 autres blessés. D'autres sources concordantes parlent de 6 morts parmi les civils, de plus de 200 vaches volées et amenées vers le village de Kilumbi. Le Mai Mai ont pris les contrôles et établi des positions dans les villages de Magunga, Muhebwa et Ngando. Les FARDC déployés en renfort mercredi dans la zone se sont repliés, un repli stratégique souligne l'armée, et les autres les habitants se sont dirigés vers la ville de Baraka et les environs. D'autres encore ont passé la nuit dans la brousse. Le maire de la ville de Baraka, Jacques Mbotua, a convoqué ce jeudi une réunion urgente de sécurité à l'issue de laquelle il a appelé la population civile locale de Baraka à ne pas provoquer les déplacés. Le Mai Mai affirme avoir attaqué le village de Bibokoboko pour étouffer l'ambition des miliciens Gumino Tugwaneo d'étendre leur bastion vers d'autres entités pendant le déploiement des FARDC. Les miliciens Gumino Tugwaneo de leur côté réfutent cette allégation. Ils estiment que ces attaques de Mai Mai visent le nettoyage ethnique d'une communauté. D'Ouvira Fiston Mayabala, Radio Kapi.
Direction la province du Sud-Ubangi. Une nouvelle tension a éclaté depuis mardi entre les Mbanda et deux groupements frontaliers établis respectivement dans les territoires de Kungu et de Gemena. On dénombre 12 personnes tuées à l'arme blanche et par fusil de chasse, ainsi que plus de 70 cases incendiées avec tous les effets des dents. À la base, un conflit foncier qui remonte à 2015. Les forces de l'ordre dépêchées de Gemena s'y sont déployées mercredi en interposition entre les deux parties, mais la situation reste volatile, indique des témoins en attendant l'arrivée des autorités provinciales. Paul Richard Malengela nous raconte.
L'actuelle tension a commencé mardi dernier, indique des témoins. Les ressortissants d'un Mbanda, territoire de Kungu, sont allés pour chasser l'épouse et les ouvriers d'un député provincial de Bodouma dans sa plantation de café au groupement Lingo Tebe, territoire de Gemena. Dans leur furie, ils se sont également saisis d'un jeune élève de Bodouma qu'ils ont tué et mutilé avant d'aller incendier 41 cases de leurs voisins. En représailles, le mercredi, les Bodouma sont allés attaquer les Mbanda. Ils ont incendié une trentaine de cases et tué 3 villageois à la machette. 3 expéditionnaires Bodouma sont également tombés morts. La lettre a été donné par le président de la société civile de Congo. L'information est également confirmée par le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Zouatela. Celui-ci parle de 12 morts de part et d'autre, certains ayant succombé à leurs blessures, et plus de 70 cases incendiées. Face à ce regain de tension, le ministre explique les dispositions prises par son gouvernement.
Les éléments de la police et des FARDC, depuis hier, ils sont sur le terrain. Incessamment, avant dimanche, le comité provincial de sécurité descendra sur le lieu pour une mission que son excellence le gouverneur de province va conduire. C'est pour la pacification, l'équipe des experts pourra descendre sur le lieu pour procéder au bornage de la limite entre les deux groupements dans la forêt conflit.
Bandaka pour Chamalengela, Radio Okapi.
En Ituri, tous les services de l'État qui fonctionnent illégalement aux différentes barrières à l'entrée de la ville de Bounia ont été déguerpis hier par le gouvernement provincial. Selon le porte-parole du gouvernement de l'Ituri, ces services tracassaient les usagers de la route et percevaient illégalement des taxes dues au trésor public. Le lieutenant Jules Ngongo indique que certains agents ont été mis à la disposition de l'auditorat supérieur militaire pour des enquêtes sur l'utilisation des recettes générées par ces services. Explication Isaac Remoyope.
Le vice-gouverneur de l'Ituri a effectué jeudi une visite d'inspection des services de l'État aux différentes barrières à l'entrée de Bounia. Il s'agit notamment de l'Engabo sur les tronçons Bounia-Komanda, de l'Est sur l'axe Bounia-Kassegni et Moudzibala sur la route Bounia-Mahagi. Selon son constat, plusieurs services fonctionnaient illégalement pour tracasser les usagers des routes. Parmi ces services, il y a notamment la Direction Générale des Douanes et Assises, DGDA, la Commission Nationale de Prévention Routière, CNPR, et les Transports et Voies de Communication, Transcom, qui ont été déguerpis de ces postes. Selon les responsables des cellules de communication du gouvernement provincial, ces services sont également accusés de percevoir des taxes illégalement auprès des propriétaires des véhicules. Le lieutenant Gilles Ngongo indique que leurs agents ont été mis à la disposition de l'auditeur supérieur qui accompagnait le vice-gouverneur pour des raisons d'enquête. Quatre services sont maintenus à ces barrières, dont la Direction générale des recettes de l'Ituri, DGRPI, l'Office congolais de contrôle, la Direction générale des migrations, DGM, et les services des renseignements dont les rôles se limitent au contrôle des personnes et de leurs biens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Kasaï Central, les élections des membres du bureau de l'Assemblée provinciale sont prévues demain samedi. Le dépôt des candidatures à différents postes s'est clôturé hier et sur la liste, plus d'une dizaine des candidats, dont trois femmes. Des précisions avec François Kadima.
La liste pour ces différents postes a été affichée par les bureaux d'âge de l'organe délibérant du Kasaï Central. Deux candidats s'alignent au poste de président, notamment Stéphane Mwanda et Jérôme Montou. Parti de la question à la suite d'une pétition, Simon Toumba a décidé de s'engager dans la course à la vice-présidence avec comme challenger Jim Mukenge et Marcel Tshipepele. Joseph Kalamba revient aussi comme candidat rapporteur. Willy Wishi et Bob Kayombo lorgnent également cette place. Dans la course, l'on retrouve une femme comme candidate au poste de rapporteur adjoint. Rose Kapinga va se frotter à Jacques Ngalamouloumé qui revient également et Sébastien Mukuna. Deux autres femmes se sont positionnées comme casteurs. Denise Malagi et Béatrice Kapinga seront face à Félicien Capiola. Notons que la campagne électorale se déroule ce vendredi au siège de l'Assemblée provinciale. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. Une cérémonie de remise d'équipement des surveillances des volcans a eu lieu hier à l'observatoire volcanologique de Goma, OVG. Il s'agit de 200 kg de matériel scientifique, dont du service géologique des États-Unis à travers l'Agence américaine de développement USAID et dont le transport a été coordonné par la MONUSCO jusqu'à Goma. Tout en remerciant les donateurs, Adalbert Mouindo, directeur de l'OVG, met surtout la population en garde contre le vol de ces matériels de surveillance des deux volcans qui surplombe Goma. Ces propos ont été recueillis par notre confrère Papi Okito du journal en ligne Écho d'Opinion.
Ici, nous avons des serveurs, des câbles, d'autres matériels informatiques qui vont nous permettre d'installer un réseau qui va nous permettre d'avoir des données en temps réel à l'observatoire. J'ai toujours rappelé à la population de Goma et des environs que le risque volcanique, nous devons nous tous nous appuyer main dans la main. Parce que lorsqu'ils volent, lorsqu'ils sabotent, ils vandalisent nos matériels, ils ne mettent pas seulement l'OVG à risque, mais tout le monde à risque. Les gens disent que non, mais dans ces matériels, il y a de mercure et autre chose, pendant que soit c'est un bulle d'eau qui est à l'intérieur de l'équipement qui nous permet de mettre à niveau l'appareil. Mais ces équipements sont des fois sabotés par la population. Et donc j'appelle à la population de nous aider à protéger les matériels que l'USAID vient de nous offrir aujourd'hui.
Et puis cette triste nouvelle, la presse congolaise est en deuil. Le journaliste Patrick Palata est décédé dans les petites heures de ce vendredi à Kinshasa. Il était directeur de Talata la télévision et ancien directeur provincial de CCTV à Matadi. D'après les premières informations, il revenait d'une mission de service à Kolwezi dans le Lualaba et il a connu un malaise la nuit dans son sommeil. Au dire du procureur de la République, substitut du procureur général qui a autorisé la levée de son corps pour la morgue de l'hôpital sino-congolais de Njili, les enquêtes sont ouvertes pour tenter d'élucider les causes de cette mort. Radio Kapi partage la douleur et présente ses condoléances à la famille éprouvée.
Actualité internationale.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a rencontré hier son homologue américain. C'est la première visite d'un chef d'État africain à la Maison Blanche depuis l'investiture de Joe Biden. À la sortie de cette réunion, le président américain a annoncé faire don de 17 millions de vaccins Johnson & Johnson à l'Union africaine. Il a également annoncé que d'autres livraisons sur le continent africain devraient être effectuées d'ici la fin de l'année. Les deux dirigeants ont également parlé de la nécessité de transparence et de responsabilité envers les systèmes financiers nationaux et internationaux. Cette discussion survient quelques jours après que le président kényan soit épinglé par les enquêtes Pandora Papers du consortium ICIJ relative aux comptes offshore des hommes d'affaires du monde entier. Au Cameroun, un gendarme a tué jeudi une écolière de 5 ans avant d'être lynché à mort dans la partie anglophone du pays, en proie à un sanglant conflit opposant les forces de l'ordre aux séparatistes. L'agresseur présumé qui avait tiré sur un véhicule dans lequel s'est trouvée la fillette a été frappé à mort par la foule. La situation reste tendue à Bouéa où des centaines de personnes ont manifesté leur colère en portant la dépouille de l'enfant.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le docteur Franck Mouindo Fikiri, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Avec lui, nous revenons sur ses inquiétudes par rapport à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni en cette période de grève des infirmiers. Docteur Franck Mouindo s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Franck Mouindo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni. Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni, dites-nous, est-ce que aujourd'hui l'hôpital général de référence de Beni est-il prêt à recevoir des cas?
Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous sommes dans les préparatifs depuis le 8. Nous étions évidemment surpris de la résurgence, mais les niveaux de préparatifs à ces niveaux sont tels que nous sommes à même actuellement de recevoir certains cas qui peuvent éventuellement arriver, qui sont d'ailleurs en train d'arriver. Nous sommes en train de les prendre en charge actuellement dans les isolements provisoires qui sont installés actuellement à l'hôpital général de Beni en attendant que le centre de traitement en cours de construction puisse être opérationnalisé.
La maladie à virus Ebola refait surface pendant que les infirmiers sont en grève. Êtes-vous inquiet de cette grève des infirmiers lancée il y a bien longtemps?
C'est une grande inquiétude que nous avons par rapport à ce contexte-là. Effectivement, s'il va falloir que les staffs infirmiers et même les staffs médicaux, s'il va falloir qu'ils restent et cadrent dans leur mouvement de grève, ça va très impacter très négativement sur cette riposte qui reste. C'est une riposte qui doit être musclée au départ pour aboutir à des résultats ou pour mettre des résultats sur table. Il faut vraiment un consensus et une grande partie de la volonté de tout un chacun, notamment les staffs infirmiers et le corps médical. Tous les corps soignants vraiment doivent arriver à se dépasser par rapport au mouvement de grève pour essayer de booster d'une façon musclée cette épidémie.
Et pensez-vous que cet état des choses est préoccupant?
C'est très préoccupant, monsieur le journaliste, parce que les revendications des grévistes restent toujours là. Les revendications n'ont pas encore trouvé guère de cause. C'est une occasion aussi pour faire une interpellation au gouvernement, de pouvoir aussi avancer avec les staffs. Les staffs peuvent avoir une bonne volonté de pouvoir mettre leur contribution à l'action, mais il faudra aussi que le gouvernement, cette fois-ci, voit un peu dans quelle mesure ils peuvent accompagner les staffs dans cette situation ici, étant donné que tout le monde, nous devons nous souder pour vraiment éradiquer cette épidémie qui reste à causer encore des désastres dans cette communauté de Beni. Il ne faudrait pas que l'on en arrive encore à ce niveau pour une raison ou une autre, surtout par rapport au mouvement de grève. Et nous pensons que tout le monde va mettre un peu de sa volonté pour que les histoires marchent.
Selon vous, la grève des infirmiers peut impacter négativement sur la prise en charge des malades confirmés d'Ebola?
Effectivement, si le corps soignant n'est pas motivé, qui peut alors prendre en charge les malades? Et sur le plan surveillance, c'est tout un arsenal, c'est toute une ressource humaine compétente qui doit être activée pour encadrer ou accompagner toutes les mesures de la riposte. Donc, s'ils sont démotivés, sûrement ça va impacter négativement la riposte.
C'est quel message lancez-vous aux infirmiers prestants, mais aussi aux autorités?
Par rapport aux infirmiers prestants, même pas les infirmiers seuls, les médecins aussi. Nous sommes dans le même paquet parce qu'aucune revendication des grévistes n'a été prise en compte jusque-là. Mais nous en appelons aux uns aux autres de revenir à la conscience professionnelle et au serment prêté. Nous pensons que si nous mettons tout et chacun un peu d'eau dans son vin, nous pouvons arriver à nous dépasser et nous mettre au service de la communauté et soigner les malades. Et quant aussi au gouvernement, de pouvoir aussi considérer cette bonne volonté, déjà qui est là, qui s'est manifestée déjà, parce que les staffs, les corps soignants, vraiment sont en train de travailler sur le terrain de manière impeccable.
Docteur Franck Mouindo, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni s'entretenait avec André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba, Jean-Noël Mokondo-Yogo à la technique et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de votre attention.